écoutez RFI Midi. Il est 15h à Paris, 2h de moins en temps universel.
RFI Midi.
Victorien Villaume.
Et on est ensemble pendant encore 30 minutes dans RFI Midi pour parler d'Haïti et des Amériques, évidemment, avec parmi les temps forts des rassemblements un peu partout aux États-Unis aujourd'hui pour le Labor Day. On rejoindra notre envoyé spécial Anne Verdaguer à Détroit dans le Michigan, Détroit bastion de l'industrie automobile américaine. Et puis, on sera au Mexique dans la revue de presse, entre autres, avant de quitter le pouvoir. Le président mexicain souhaite faire passer une réforme de la justice qui fait polémique, on va l'entendre. Et puis dans le journal des Outre-mer. Nous serons avec Benoît Ferrand. Benoît, en Martinique, les forces de l'ordre sont intervenues très tôt ce lundi matin pour déloger les manifestants qui bloquaient l'accès au port de Fort-de-France et lever les barrages installés.
Il s'agit en fait des suites d'une manifestation contre la vie chère qui a commencé hier dimanche à l'appel d'un rassemblement. Rassemblement dont nous entendrons tout à l'heure la porte-parole.
Merci beaucoup Benoît, à tout à l'heure.
RFI Midi.
Avant ça, on retrouve Marion Kazanov pour un nouveau point sur l'actualité. À la une, Marion, ce week-end prolongé donc aux États-Unis. J'en parlais, c'est le Labor Day, la fête du travail.
Et c'est donc un jour férié, mais ce n'est pas un jour de repos pour tous. La campagne présidentielle se poursuit. Kamala Harris et Joe Biden se déplacent ensemble en Pennsylvanie, un état ouvrier où l'issue du vote du 5 novembre prochain risque d'être décisif. Loubna Anaki.
Avec ses 19 grands électeurs, la Pennsylvanie reste l'un des états clés pour toute élection présidentielle. En 2020, Joe Biden l'avait arraché à Donald Trump par une très faible avance et dans deux mois, les électeurs de cet état pourraient à nouveau faire basculer la présidentielle. Ce n'est donc pas un hasard si la campagne de Kamala Harris concentre autant d'efforts sur la Pennsylvanie. Aujourd'hui, pour la fête du travail, la vice-présidente s'y rend pour tenter de renforcer sa popularité auprès de l'électorat col bleu. Aux côtés de Joe Biden, elle devrait adresser des messages, notamment aux syndicats. Il faut savoir que la démocrate a reçu le soutien de plusieurs grandes organisations, à commencer par le tout-puissant syndicat des travailleurs automobiles UAW. Kamala Harris a déjà fait savoir qu'elle comptait poursuivre les mêmes politiques que l'actuel président en matière de droits des travailleurs. Joe Biden se présente souvent comme le président le plus favorable aux syndicats de l'histoire du pays. On se souvient que l'année dernière, il avait rejoint des ouvriers sur leur piquet de grève, une première pour un président américain. Le soutien des syndicats a toujours joué un rôle primordial dans la course à la présidentielle américaine. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et on revient sur les manifestations des travailleurs à l'occasion du Labor Day dans quelques minutes avec notre envoyé spécial Anne Verdaguer qui est à Détroit dans le Michigan.
En Israël, après des manifestations massives hier, aujourd'hui c'est grève générale. Une grève pour mettre la pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou afin qu'il accepte un nouvel accord de trêve avec le Hamas, ce qui permettrait aussi de nouvelles libérations d'otages israéliens. 6 otages ont été retrouvés morts hier dans un tunnel à Gaza. Il y a une heure, un tribunal du travail israélien a ordonné la fin de cette grève générale. Les écoles sont restées fermées ce matin dans certaines villes, tout comme des commerces, des vols aussi ont été retardés à l'aéroport Ben Gurion.
Vous écoutez RFI, le pape François attendu en Indonésie.
Il entame une tournée de 11 jours en Asie et en Océanie, son voyage le plus long et le plus lointain pour le souverain pontife de 87 ans. Il atterrira demain dans le plus grand pays musulman du monde, où le christianisme est très minoritaire. Puis il enchaînera avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor oriental, deux pays où les chrétiens sont majoritaires. Enfin, le pape s'arrêtera à Singapour, mégapole état de la tech, où se côtoient bouddhistes, hindous, taoïstes, chrétiens ou sikhs. François Mabi, chercheur au CNRS, détaille les enjeux de ce voyage apostolique.
D'une part, ce déplacement s'inscrit dans ce que le pape appelle les périphéries. Il souhaite rejoindre les périphéries, que ce soit des périphéries géographiques, des périphéries sociales, des périphéries existentielles donc, ou des périphéries religieuses, c'est-à-dire là où le catholicisme est encore faiblement implanté. Ensuite, il y a les thématiques, bien évidemment, qui vont être abordées, et parmi ces thématiques, il y a le dialogue interreligieux. Il se rend en Indonésie, pays à forte majorité musulmane, et donc le dialogue avec l'islam est un des points forts de son pontificat. Il se rend à Singapour, qui est une sorte de melting pot religieux, et donc là aussi, la coexistence religieuse est importante. Donc ce thème-là, de la coexistence l'exigence de la tolérance entre les acteurs religieux est effectivement un autre point fort. Et puis le troisième, c'est bien évidemment la question de l'environnement qui sera traitée de manière pratiquement permanente dans chacune des visites. On se souvient que le pape est celui qui a publié la première grande encyclique sur le sujet, Laudato Si, en 2015. Et donc cette mobilisation des acteurs religieux en faveur de l'écologie est également un point fort de son pontificat, donc de ce déplacement.
François Mabi, chercheur au CNRS et à l'École des hautes études, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS, propos recueillis par Véronique Guémard. En Allemagne, le chancelier réagit après la victoire de l'extrême droite dans des élections régionales. Olaf Scholz appelle à des coalitions sans l'extrême droite en Thuringe et en Saxe, deux régions de l'Est. En Thuringe, l'AFD est arrivée en tête. Elle talonne les conservateurs en Saxe. Ce scrutin affaiblit un peu plus la coalition de gauche du chancelier. Cela à un an des législatives. En France, le président pourrait nommer dès demain un nouveau Premier ministre et mettre fin à des semaines de spéculation. Emmanuel Macron a reçu tout à l'heure Bernard Cazeneuve, qui serait pressenti, tout comme Xavier Bertrand du parti de droite Les Républicains. Lui est attendu cet après-midi à l'Élysée. Emmanuel Macron a aussi poursuivi ses consultations en recevant ce matin les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Toutes les dernières informations sur le sujet sont à retrouver en une de notre site internet rfi.fr.
Et alors que l'incertitude demeure en France, la future Commission européenne se dessine.
Les gouvernements des États membres de l'Union avaient jusqu'à vendredi pour donner le nom de leur candidat pour devenir commissaire. Ursula von der Leyen est déjà confirmée, mais les 26 autres devront être auditionnés par le Parlement. La liste n'est pas encore complète, il manque toujours le nom du candidat belge. Pour le reste, la future commission s'annonce excessivement masculine, c'est la première et pour l'instant la seule certitude. À Bruxelles, Pierre Benazet.
Ursula von der Leyen a déjà dessiné ses priorités premières pour les 5 ans à venir, à savoir donner à l'UE les outils pour résister et s'affirmer dans les prochaines décennies face aux 3 défis majeurs, économiques, climatiques et géopolitiques. Elle dispose d'un certain nombre de poids lourds parmi les candidats commissaires, d'abord avec ceux qui ont été reconduits par leur gouvernement, en particulier le Slovaque Maroš Šefčovič, dont ce serait le 4e mandat à la Commission, mais aussi le Letton Valdis Dombrovskis et le Français Thierry Breton. Au total, 7 commissaires devraient être reconduits, dont Ursula von der Leyen et la Croate Dubravka Šuica, la seule autre femme parmi les sortants. Parmi les autres poids lourds nominés figurent le Tchèque Joseph Sikela et l'Estonienne Kaja Kallas. Elle doit devenir la chef de la diplomatie de l'UE. Mais les femmes sont sous-représentées, moins d'un tiers contre près de la moitié dans le collège sortant. Et la possibilité de voir le Parlement recaler l'ensemble des candidats pour cause de manque de parité menace de rendre vaine la répartition des portefeuilles. Cette répartition devrait déjà avoir débuté, mais l'absence de candidats belges complique encore la tâche. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
RFI 8h07 à Quito, en Équateur, un violent incendie fait rage depuis 10 jours.
Les flammes rongent une partie de la zone rurale de Quilanga, c'est dans le sud du pays, tout près de la frontière avec le Pérou. Christophe Paget, le Pérou justement et la Colombie ont envoyé de l'aide.
Oui, l'incendie a été provoqué il y a une dizaine de jours par des feux allumés par des agriculteurs pour leur culture. Depuis, les pompiers combattent l'incendie, mais ils font face à de violentes rafales de vent et de fortes températures. Des températures qui devraient rester élevées ces prochains jours. Ce dimanche, le secrétaire à la gestion des risques a indiqué que plus de 4800 hectares de forêts, d'arbustes et de cultures avaient déjà été détruits. Dans la région, on cultive surtout du café. Plusieurs dizaines de familles ont dû être évacuées. Pour faire face au sinistre, le gouvernement a versé près de 190 000 dollars au gouvernement de la province de Quilanga. Et l'armée a envoyé 2 avions équipés d'un système de lutte contre les incendies. Les pays voisins se sont donc aussi mobilisés. On l'a dit, au nord, la Colombie a dépêché un avion. Et au sud, le Pérou, on a envoyé 2 ainsi que 2 hélicoptères. Actuellement, 23 feux font rage en Équateur, dont 2 sont sous contrôle. Depuis le début de l'année, il y a eu près de 2000 feux qui ont brûlé plus de 18 000 hectares, particulièrement au mois d'août.
Christophe Paget du service international de RFI. On reste sur le continent américain dans la suite de RFI Midi. Il est 15h09 à Paris, 9h09 à Détroit dans le Michigan. Victorien Villaume, c'est à vous.
Merci Marion Cazeneuve, à très bientôt.
Le journal d'Haïti et les Amériques sur RFI.
C'est un jour férié et symbolique aux États-Unis, le Labor Day, l'équivalent de la fête du travail avec des rassemblements organisés un peu partout et notamment au nord-est du pays, dans l'état du Michigan où l'on vous retrouve. Anne Verdaguer, bonjour. Anne, vous êtes plus précisément à Détroit, bastion de l'industrie automobile américaine, avec un rassemblement, Anne, qui vient de s'élancer du centre-ville. Et on va essayer de vous rejoindre évidemment très, très rapidement. Anne, pour l'instant, on sent bien que la liaison est un peu mauvaise, mais donc vous êtes aux États-Unis pour RFI, on va essayer de vous retrouver. Mais avant ça, on va rejoindre et on m'indique que Anne Verdaguer est à nouveau présente avec nous. Anne, un rassemblement vient donc de s'élancer du centre-ville. Vous êtes à Détroit pour RFI.
Oui, les manifestants viennent juste de partir du centre-ville. Ils sont venus en famille avec leurs collègues. Beaucoup de personnes arborent le t-shirt du principal syndicat de l'industrie automobile. Comme vous le savez, le Michigan, c'est le bastion de cette industrie automobile. Et avec ce mot d'ordre cette année, unis dans la solidarité envers les travailleurs, les revendications tournent autour des promesses faites par les trois géants de cette industrie automobile lors des grèves de l'an passé. On se souvient très bien du bras de fer qui les avait opposés aux trois grands de l'industrie automobile, Ford, General Motors et Chrysler, et qui avait permis d'obtenir des avancées, notamment des hausses de salaire de 23%. Mais aujourd'hui, plusieurs grands groupes font marche arrière. Certaines usines automobiles qui devaient réouvrir sont toujours fermées. C'est le cas de celle de Belvedere, à quelques kilomètres de là. Et pire encore, Stellantis a annoncé le licenciement de 2500 personnes dans son usine de Détroit en raison des baisses de vente de véhicules aux États-Unis, ce qui met le feu aux poudres chez les syndicats. De nouvelles menaces de grève planent sur cet État traditionnellement démocrate qui pourrait bien basculer républicain lors de la prochaine élection.
Oui, parce que c'est une année bien sûr très particulière, Anne, pour les syndicats américains, une année électorale où le vote ouvrier va beaucoup compter, en particulier dans l'État du Michigan.
Oui, cet État et ses 17 grands électeurs avaient créé la surprise en 2016 en élisant Donald Trump avec seulement 10 000 voix d'avance. Joe Biden a ensuite, en 2020, fait de nouveau basculer le Michigan côté démocrate. L'élection cette année reste la grande inconnue. Beaucoup de ces ouvriers de la classe moyenne se sentent laissés pour compte. Ils se disent encore indécis. C'est le cas d'Andrea, 37 ans. Elle est ouvrière chez Stellantis et elle fait partie de ceux qui pourraient bientôt perdre leur travail.
Yeah, I'm absolutely concerned.
Les choses vont vraiment très mal depuis un an. Je ne sais pas si j'aurai encore un travail en octobre prochain. Et honnêtement, je ne sais pas pour qui je vais voter. En 2016, j'avais voté Hillary Clinton face à Donald Trump, mais elle a perdu. Et pour moi maintenant, il n'y a pas de meilleur candidat. Certains disent qu'il faut aller avec le moins pire des deux. Mais je ne saurais pas dire ce que Biden a fait de bien pendant son mandat. Il n'est peut-être pas responsable de l'inflation qui est venue après le Covid, mais il faut bien que quelqu'un en assume la responsabilité. Moi, je dépense $200 en courses et j'ai deux fois moins de choses dans mon panier qu'il y a un an. Et si je me retrouve sans travail, il faudra bien continuer à payer les factures.
Oui, alors depuis les dernières élections présidentielles aux États-Unis il y a 4 ans, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de près de 25%. C'est devenu pour beaucoup un symbole prégnant de l'échec du mandat de Joe Biden, malgré de bons résultats économiques. L'autre motif de ce glissement du vote démocrate et ouvrier, c'est la politique envers les véhicules électriques de l'administration Biden, avec des promesses de création d'emplois sans résultat pour le moment, bien au contraire, puisque certains groupes comme Ford recule devant cette stratégie du tout électrique. Pour beaucoup, cela va bien trop vite. Les usines ne sont pas prêtes à faire cette conversion et à former les travailleurs. L'équipe de campagne de Kamala Harris a annoncé sa venue à la fin de cette parade ce matin à Détroit. Elle aura sans doute à cœur de conquérir cet électorat, alors que selon un dernier sondage, Trump a toujours 1% d'avance sur sa concurrente dans l'État du Michigan.
Merci infiniment Anne Verdaguer, envoyée spéciale de RFI à Détroit. Et on continue de parler du Labor Day avec vous, Harim Lipo. Paul de bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Puisque la presse, Harim, tire la sonnette d'alarme sur l'augmentation du travail des mineurs dans le pays.
Oui, les chiffres sont alarmants. Selon USA Today, le nombre de mineurs qui travaillent a presque quintuplé entre 2015 et 2023. Il s'agit notamment des adolescents qui travaillent tard le soir, font trop d'heures et dans un environnement dangereux. La raison, eh bien, avec des pénuries de main-d'œuvre, certains employeurs se tournent vers les moins de 18 ans pour combler ces manques, écrit USA Today. En fait, les législateurs, au lieu de protéger les enfants, s'efforcent de supprimer les garde-fous. Au cours des 3 dernières années, 28 États majoritairement républicains ont présenté des projets de loi visant à affaiblir les lois sur le travail des enfants. Une douzaine d'États les ont déjà promulgués.
RFI Midi. Et Arim, vous restez évidemment avec nous. On prend tout de suite la direction du Mexique comme un air d'adieu. Hier dimanche, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador s'est adressé à ses sympathisants rassemblés sur la place centrale de Mexico, le Zócalo, en défendant sa politique. Il quittera, je le rappelle, le pouvoir dans un mois, laissant la place à sa dauphine.
Oui, AMLO, comme l'appellent les Mexicains, continue à diviser la presse, tout comme il a divisé le pays pendant 6 ans. AMLO s'en va en remplissant pour l'avant-dernière fois le Zócalo, écrit le journal Milenio. De son côté, l'éditorialiste del Universal dénonce un discours en forme d'autocongratulation et d'autosatisfaction au lieu de s'adresser à tous les Mexicains, poursuit Milenio. Le caudillo s'est adressé encore une fois à ses partisans qui l'ont acclamé parce qu'en fin de compte, AMLO termine son mandat de 6 ans comme il a commencé, comme un président toujours en campagne qui n'a jamais cessé de faire du prosélytisme politique depuis la tribune présidentielle en faveur de son parti et contre ses opposants.
Et la toute dernière décision prise par AMLO à Rime provoque également la polémique.
Exactement, avant de quitter le pouvoir, le président souhaite faire passer une réforme de justice. Ce projet est très contesté, à commencer par les juristes eux-mêmes, car il prévoit l'élection, une élection des magistrats et des juges par un vote populaire. Alors ce projet de loi sera discuté à partir de demain, mardi, au Parlement, qui a débuté sa nouvelle législature. C'est à l'une du journal La Jornada. L'opposition a déjà appelé à voter contre le projet, mais le parti d'AMLO et ses alliés disposent de la majorité des 2/3 à l'Assemblée nécessaire pour changer la Constitution.
Et c'est dans ce contexte de polémique, Arim, que des milliers d'étudiants en droit, avocats et magistrats ont manifesté à Mexico. C'est le reportage de Gwendolina Duval.
Parmi les tout premiers du cortège d'étudiants en droit, José Luis Cruz brandit une pancarte sur laquelle il a écrit que son futur métier est destiné à servir le peuple et non les politiciens.
Cette réforme est politique. Elle va dynamiter la liberté et l'indépendance de la justice.
La réforme judiciaire poussée par le gouvernement sortant prétend assainir le système mexicain, rongé par la corruption et les conflits d'intérêts. Mais l'élection des magistrats par les citoyens fait craindre une baisse du niveau de compétence des juges et la politisation de la justice. Lilia Gallardo, une étudiante en droit.
Quand bien même le pouvoir judiciaire a besoin d'être réformé, ce n'est pas la bonne manière. Le vote populaire va faire disparaître la formation judiciaire. Sous prétexte que les juges soient plus impartiaux, on perd l'indépendance.
Les professionnels de la justice sont venus nombreux soutenir les étudiants, comme cet avocat du pouvoir fédéral, qui critique surtout la concentration des pouvoirs autour de l'exécutif, conforté par une majorité absolue à l'Assemblée.
Aujourd'hui, ils attaquent la justice car c'est elle qui freine toute leur colère et leurs caprices. Un pays démocratique a besoin de ses contre-pouvoirs et la justice en est un.
La réforme judiciaire devrait être discutée dans les prochains jours à l'Assemblée avec toutes les chances d'être approuvée avant le changement de la présidence. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Merci beaucoup Gwendolina. Et tout de suite, la revue de presse continue avec les Cubains qui vivent de plus en plus dans la précarité. C'est à la une, Arim, de la presse brésilienne.
Oui, c'est le reportage de Folha de São Paulo. Les Cubains subissent effectivement une pénurie généralisée, que ce soit sur le plan alimentaire ou médical. Les habitants de l'île demandent aux touristes du paracétamol, écrit le journal brésilien. Les autorités cubaines contactées par Folha de São Paulo affirment que personne ne souffre de malnutrition à Cuba, mais des personnes contactées par le quotidien disent le contraire. Il est souvent difficile de manger 3 repas par jour. Un constat confirmé par l'écrivain Leonardo Padoro dans une interview avec Carta Capital. Avant, les gens mangeaient peut-être mal, mais ils mangeaient, explique le romancier cubain. Aujourd'hui, dit-il, certains ont effectivement faim. L'inflation y est pour beaucoup, selon Folha de São Paulo. Elle rend difficile l'accès aux produits de première nécessité dans les tiendas, les marchés où les achats se font avec des devises. Par exemple, un paquet de café de 500 grammes peut coûter près de 9 dollars.
C'était la revue de presse d'Arim Lipold. Merci beaucoup Arim, à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
À la direction Haïti, à présent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu en Haïti. Selon le journal Le Nouvelliste, il doit arriver au milieu de cette semaine pour des entretiens avec le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, ainsi que le Premier ministre Gary Conille. À Haïti, où les avocats ont de plus en plus de mal à exercer leur métier à cause de l'insécurité, certains quittent Port-au-Prince quand ils n'atterrissent pas à l'étranger. Des avocats décident de se réfugier dans des régions moins touchées par la violence armée. Et puis, il y a ceux qui résistent. Marc Sonny-Charles détient un cabinet d'avocats dans la capitale haïtienne.
Bien sûr, nous voulons travailler. La plupart du temps, nous nous réunissons pour traiter certaines questions. Mais depuis 2018, le cabinet ne fonctionne pas dans son rythme normal. Le rythme normal du cabinet, c'est que la plupart du temps, on a des dossiers dans différentes juridictions du pays. Et parce que nous avons 18 juridictions actuellement, et en Haïti, et la plupart du temps, on se rendait à Fort Liberté, à Wanamet, au Cap-Haïtien, on se rendait au CAI pour aller traiter des dossiers, on se rendait à la Croix des Bouquets. On avait des dossiers dans les différentes juridictions du pays. Mais actuellement, on se cantonne à Port-au-Prince.
Et son cabinet ne peut donc plus fonctionner au même rythme qu'avant.
Les activités du cabinet se limitent à certaines consultations, à des institutions privées. Et on a des dossiers de différentes natures à traiter, et des dossiers relatifs à la revendication du droit de propriété, à des successions, etc. Mais on n'arrive pas à les traiter vraiment parce que il y a des zones qui sont inaccessibles aujourd'hui à de simples citoyens. Je ne sais pas pour les autorités, ceux-là qui peuvent circuler à bord de voitures blindées. Mais pour nous autres avocats qui n'avons que de simples véhicules, comme tous les citoyens, nous n'arrivons pas à exercer notre profession comme à l'ordinaire.
Et c'est la raison pour laquelle certains avocats en Haïti ont décidé de remettre leur robe au placard pour se consacrer à d'autres activités, nous raconte Maître Charles.
Dans une société où règne l'injustice, dans une société où règne l'absence du droit, où les autorités ne sont pas à même d'instaurer l'ordre public, où les règles juridiques sont foulées aux pieds, où de simples individus peuvent s'attaquer à des institutions judiciaires, par exemple le palais de justice qui est actuellement pris en otage par des bandits, et d'autres espaces tels que à la Croix des Bouquets, aucun avocat ne peut mettre les pieds dans les espaces judiciaires. Il y a des zones où l'on ne peut pas se rendre parce que des bandits règnent en maître. Donc, l'homme de loi qui ne dispose que de la loi et de sa parole pour faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine a du mal à travailler. L'État n'est pas à même de garantir le respect du droit, le respect de la loi. Et voilà, ce sont ces raisons-là qui expliquent l'impossibilité des avocats de travailler. Donc ce que nous espérons justement, c'est de voir que cet état de choses disparaisse, que l'État puisse faire régner le droit, l'État puisse mettre la force du côté de la justice.
Voilà, c'était le témoignage de Marc Sonny-Charles qui détient un cabinet d'avocats à Port-au-Prince, des propos recueillis par notre correspondante Marie-André Bélange.
RFI Midi.
Et sans plus attendre, le journal des Outre-mer avec Benoît Ferrand. Rebonjour Benoît. En Martinique, les forces de l'ordre sont intervenues très tôt ce lundi matin pour déloger, je cite, les manifestants qui bloquaient l'accès au port de Fort-de-France et lever les barrages installés par ces mêmes manifestants.
Tout a commencé en fait hier, dimanche, avec une mobilisation contre la vie chère, mobilisation lancée par l'association Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes 972. Après une halte devant un supermarché de Dillon à Fort-de-France, le cortège de manifestants s'est rendu au grand port maritime et c'est donc là que les forces de l'ordre sont intervenues à la levée du jour ce matin, aux grandes dames de la porte-parole du rassemblement, Aude Goussard.
Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'encore une fois, on constate que quand un peuple demande un petit peu plus de dignité, surtout le respect de ce porte-monnaie par rapport à la vie chère, M. Jean-Christophe Bouvier et tous les préfets successifs, sans compter les procureurs, préfèrent nous envoyer les forces de l'ordre. Alors que le mot d'ordre était véritablement zéro violence, on ne pourra pas dire cette fois-ci qu'il y ait eu un feu nulle part. Vous voyez d'où les flammes arrivent. Eh bien, si c'est le brasier qu'il cherche, et ben on va devoir jouer les pompiers pyromanes.
L'appel à manifester contre la vie chère a été également suivi hier en Guadeloupe, où environ 200 personnes ont manifesté dans un grand centre commercial de Bémao. Guadeloupe suite, la métropole ou l'Amérique du Nord en forme, le Canada en berne, les destinations régionales en dents de scie. L'activité de Pôle Caraïbes, l'aéroport international de la Guadeloupe, a connu un tout petit peu plus de bas que de haut en juillet 2024. Le point avec Franck Aristide.
Avec 0,1% de recul, le segment phare de l'activité aérienne chez nous garde son niveau de l'an dernier. Sans surprise, le trafic vers Paris a toujours le vent en poupe, qui séduit encore également, avec même là des résultats en hausse. L'Amérique du Nord, plus 2,5% par rapport à juillet 2023. Mais toutes les destinations du continent n'affichent pas le même succès. Alors que Miami, qui offre ses croisières et son hub vers le reste des États-Unis, enregistre une hausse de près de 44%. Le Canada est par contre en sérieuse perte de vitesse avec un quart de voyageurs de moins sur la même période en un an. Côté régional, cette fois, la baisse est également marquée, quasiment 4% de moins. La reprise encore très limitée des vols de la nouvelle Errantie n'a pas permis de revenir au niveau de fréquentation de l'année dernière. Si Saint-Martin et la Guyane ont vu leur nombre de passagers croître quelque peu, la Martinique et surtout Saint-Barth voient leurs chiffres dégringoler. 8% de moins pour Fort-de-France, 38% de moins pour Gustavia.
Bon après-midi, Victorien.
Bon après-midi à vous également, Benoît Ferrand. Merci beaucoup. C'était le journal des Outre-mer. Il est 15h26 à Paris. C'est le renouveau de la musique cubaine. On écoute le chanteur cubain Sima Funk en duo avec le groupe vénézuélien Monsieur Périné.
Está desacatado, me lleva a la cima y me deja temblando con ese tumbao. Vacila y vacila con ese cuerpero tan arrebatado, de puro melao. Oye, pelao, ese melao es pa' mí.
Catalina. Talla perfecta, linda, suelta. Desde temprano necesito eso. Desde tempranito tu beso.
Tú tienes el flow que conecta. Rico, suelto. Pura medicina pa' mi corazón y vitamina pa' mi cuerpo.
Yo necesito de ti todos los días. Tu ahora, tu agüita y panela me mata. Ay, me mata.
Catalina, tu problema.
Le chanteur cubain Sima Funk sur RFI et RFI Midi, c'est terminé. Merci à Yann Eligouin d'avoir réalisé cette émission, à la rédaction en chef Véronique Rigolet. Je rappelle que tous nos rendez-vous d'information sont à retrouver sur RFI.fr et demain vous aurez le plaisir de retrouver Anne Cantner pour RFI Midi.
Te tengo el sueño quita, pero...